Certainement, en matière d'éthique vis-à-vis de l'autre, une des bases de notre tradition est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le reste, ce sont des commentaires. Va et étudie. Mais en termes de responsabilité personnelle, de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, et en termes aussi de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'histoire, il y a un autre principe qui est très très important, qui est celui du respect de la vie. Et dans notre tradition, on ne s'arrête pas aux grands principes généraux. De telle sorte que le respect de la vie, c'est le respect de chacune des minutes et des secondes de nos vies. Comme on dit dans le Shema Israël, à propos des Tzitziot, vous les verrez et vous vous souviendrez de tous mes commandements et vous n'errez pas derrière vos cœurs et derrière vos yeux. Comme un encouragement à prendre conscience de l'impact de chacun de nos actes. Notre paracha s'appelle Toldot. Toldot signifie les engendrements, les générations, l'histoire. Elle signifie les questions de causalité et d'enchaînement dans nos vies, dans notre vie individuelle et dans notre vie en tant que peuple. Quel événement amène quel autre événement? Quel type de parentalité entraîne quel type de fraternité? Nous avons déjà vu la relation entre Abraham et Sarah, et nous passons à la relation entre Yitzhak et Rebecca, Isaac et Rivka, et leurs enfants, Jacob et Ésaü. Toldot, les engendrements, l'histoire, notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire, et notre attitude, qui peut être une attitude de prise en main ou à une attitude de passivité. Est-ce qu'on subit l'histoire ou est-ce qu'on la crée? Vous voyez que c'est une question extrêmement vaste, extrêmement sensible, extrêmement importante pour chacun d'entre nous. Parfois, les choses peuvent sembler très simples. Notre paracha se termine avec la bénédiction de Isaac à Jacob, de Yitzhak à Yaakov, et comme sur l'image que vous voyez, tout peut sembler très simple. Un vieil homme aveuglé, un jeune homme qui ne comprend rien, une femme qui se tient derrière, qui surveille et qui décide comment elle souhaite que l'histoire se passe. Les choses peuvent sembler très simples, comme sur cette image, ou comme tout au début de notre paracha, sur ce commentaire de Rashi, nous nous souvenons que Rebecca est enceinte et elle souffre. Il y a des mouvements dans son ventre, elle ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Elle ne comprend pas les événements physiques, la réalité de ce qui se produit entre ces deux jumeaux dont elle ignore pour l'instant l'existence en tant que deux enfants. Et probablement, et c'est une direction qu'on va suivre également, elle ne comprend pas les mouvements qui se font en elle dans cette chose que va être la naissance de ses enfants qui va écrire l'histoire d'Israël. Le texte nous dit « Vait rotsatsu habanim bekirba, vatomer imken lamaze anochi, vatelech lidrosh et Adonai. » Les enfants, je vais reprendre ici, comme les enfants s'entrepoussaient dans son sein, elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée? Et elle alla consulter le Seigneur. Rashi nous dit, Lamaze anochi, à quoi suis-je destinée? Ou plutôt, à quoi bon mon existence? Rashi nous dit, Imken gadol tsa'ar haibur, lamaze anochi mit ava mit palelet al hayrayon. S'il en est ainsi, si telle est la souffrance de l'enfantement, à quoi bon? À quoi suis-je destinée? À quoi bon avoir tellement souhaité et désiré cette grossesse? La souffrance est trop grande. Rebecca souffre. Peut-être est-ce aussi simple que ça. Comme on pourrait s'imaginer aussi que l'élection d'Israël est quelque chose de très simple. Israël, le peuple élu, choisis par l'Éternel, seul peuple élu, uniquement pour notre bonheur. On sait que les choses sont beaucoup plus complexes. De la même façon, les choses pourraient sembler simples, comme si on se réfère à cette première matriarche, Sarah, dont le rire, dans des circonstances parallèles où elle-même attendait une grossesse, espérait une grossesse, le rire au moment où cette grossesse lui a annoncé, ce rire est critiqué comme un doute en l'Éternel. Les choses pourraient être aussi simples. On pourrait s'imaginer aussi de façon très simple que j'ai raison, que mon interprétation est bonne, que la façon dont je mène tel ou tel projet est la seule qui soit valable. Mais telle n'est pas la voie du judaïsme. Notre tradition nous enseigne que la réalité est beaucoup plus complexe. Et elle nous l'enseigne en particulier dans notre paracha, à travers cette question tellement poignante que pose Rivka et sur laquelle je souhaite revenir. Imken, lamaze anochi. S'il en est ainsi, à quoi suis-je destiné? À quoi bon vivre? Lamaze anochi, moi, ma propre existence, à quoi sert-elle? Cette interrogation n'est pas la première dans la Torah et le lamaze revient à plusieurs reprises. Et nous évoquions, il y a un instant, Sarah, notre mère, dont Rivka est l'héritière. Et il est intéressant de comparer Sarah et Rivka. Dans le 18e chapitre de la Genèse, il y a 2 semaines, nous pouvons lire. Vayomer Adonai el Avraham, Lamaze tzachaka Sarah, les morts, Aaf umnam eled va'ani zakanti. L'Éternel dit à Avraham, pour quelle raison Lamaze? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle Sarah a ri en disant « Comment puis-je moi-même donner la vie et enfanter ?» et l'aide, de la même racine que notre paracha, Toldot, va'ani zakanti, alors que je suis vieille. Nous avons 2 matriarches, Sarah et Rebecca, à propos desquelles la même formule est employée, l'amazé. Mais il y a une différence. C'est qu'alors que Rebecca s'interroge elle-même sur la raison de son existence suite à cette grossesse tellement difficile, Sarah ne s'interroge pas, elle est interrogée, elle est appelée. C'est en réalité les envoyés, ce sont en réalité les envoyés de l'Éternel qui interrogent son mari sur ses sentiments en disant comment se fait-elle qu'elle rit. Et ça nous soulève une autre différence qui est très importante, qui est le fait que Sarah a un recul sur l'expérience qu'elle est en train de vivre. C'est ça le rire. C'est de se dire, il y a une chose qui est en train d'arriver et je ne sais pas où ça m'amène. Peut-être que c'est un rire d'espoir, peut-être que c'est un rire de doute, mais c'est un rire qui met une certaine distanciation avec la réalité. D'un autre côté, Rebecca, elle, est entièrement immergée dans sa question. C'est elle-même qui la pose et elle montre en cela son caractère actif et sa capacité de décision. Mais c'est une question existentielle qu'elle tourne vers elle-même. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de mon existence? On voit ici que la question de la maternité, de la léda, de la naissance, de toldot, des engendrements, est un grand bouleversement pour ces 2 matriarches. Mais la question de ce lamazé ne s'arrête pas ici. Et rapidement, on va survoler les autres moments où cette expression est employée dans la Torah. Puisque le prochain qui va l'employer de façon très intéressante, c'est ce cher Ésaü, cet Ésav, qui dira encore dans notre paracha, « Vayomer Ésav, hine anochi holech lamut, velamaze li bechora. » Et voilà, moi, je suis sur le point de mourir. Alors, à quoi bon pour moi la bénédiction, ou plutôt le droit d'aînesse? Et nous continuons de façon très intéressante. Là, on est déjà dans la paracha suivante, mais nous suivons Yaakov, nous suivons Jacob, à propos duquel la question sera posée, non par lui-même, mais par cette personnalité extraordinaire qu'est l'ange, avec lequel l'ange ou l'envoyé, ou la personne, avec lequel il va se battre la semaine prochaine. Vaish'al Yaakov vayomer, hagidana shemecha, vayomer, lamaze tish'al lishmi, vayevarech oto sham. Et il demanda, et Jacob demanda, et dit, « Dis-moi, s'il te plaît, quel est ton nom ?» Jacob veut savoir avec quelle entité, avec quelle force, avec quelle question il s'est battu. Mais l'ange se dérobe et lui dit, « Lamaze tish'al, pourquoi donc, en utilisant toujours cette expression existentielle, pour quelle raison fondamentale voudrais-tu connaître mon nom ?» Comme si la raison des choses allait encore s'échapper avec le nom de l'ange ou de l'envoyé qui ne sera pas donné. Mais néanmoins, c'est seulement à la conclusion de la paracha de la semaine prochaine, à travers cette phrase, que Jacob recevra une deuxième bénédiction. Et c'est ce que nous venons de lire, « Vayevarech oto sham » et il le bénit à cet endroit-là. C'est là que Jacob recevra le nom d'Israël. Nous allons continuer rapidement avec un lamazé qui se rapporte à la question de Jacob à Ésaü, au nom de quoi, pour quelle raison existentielle, est-ce que tu me pardonnerais ? Avec la question existentielle de Moïse à l'Éternel, qui demandera, lamazé shelachtani, pour quelle raison, si tout est sur le point de s'écrouler, si la délivrance et la sortie d'Égypte est si compliquée, pour quelle raison m'as-tu envoyé ? Et le parallèle, toujours intéressant, du peuple qui se retourne cette fois-ci contre Moïse et lui dit « Lamaze he elitanu mimitzraim » « Pour quelle raison nous as fait-tu sortir de l'Égypte ?» Question qui est posée à deux reprises avant que Moïse se tourne à nouveau vers le peuple et lui dise « Lamaze atem ovrim et pi Adonai vehi lotitzlach » « Pour quelle raison est-ce que vous vous opposez maintenant à l'Éternel ?» Nous voyons donc que Moïse, le peuple d'Israël, Jacob, l'envoyé contre lequel Jacob s'est battu, et Ésaü se posent la même question que celle que les anges ont posée à propos de Sarah et que celle que Rivka tourne vers elle-même. C'est une question très profonde et on voit que les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'il aurait pu sembler en apparence. Une question très profonde qui nous mène même à cet article de Harry Elon, qui est un chercheur du centre Shalom Hartman à Jérusalem, et qui compare la question de Rivka, la question de Rebecca, à celle de Job, qui dit par exemple, à un moment de ses souffrances, « Kacher lo haïti eyé, je serais comme si je n'avais jamais existé. » Qu'est-ce qui perturbe Rebecca à ce point? Ce n'est certainement pas la souffrance, et différents commentateurs le soulignent, ce n'est certainement pas la pure souffrance physique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. Quelle est cette lutte qui se produit à l'intérieur de Rivka? Elle est tellement importante que Rebecca va se tourner et prendre cette initiative extraordinaire qui est d'aller elle-même interroger la volonté divine. Il y aura des commentaires sur la façon dont elle va poser cette interrogation, mais le texte nous dit, alors que pour Sarah, les anges sont venus interroger Abraham pour porter la conscience de Sarah, ici c'est Rebecca elle-même qui s'interroge. Après avoir fait le tour de ses voisines et des femmes qu'elle connaissait pour demander si cette émotion et cette difficulté est normale, elle n'a pas trouvé de réponse. Et « Vateler lidrosh et Hachem ». Elle a là interrogé l'Éternel. Et il lui a répondu. « Vayomer Hachem la ». L'Éternel lui dit « Shne goim bevitnecha ». Deux peuples sont dans ton ventre. « Ou shne leumim mime'echa ipardu ». Et deux nations sortiront, se sépareront de l'intérieur de toi. Ou leum ileum yematz, verav yavod tsair. Et Un peuple sera plus puissant que l'autre et l'aîné obéira au plus jeune. Deux tendances coexistent en Rebecca. Et le Midrash Rabba nous enseigne Vayitrotsetsu Habanim Bekirba, Rabbi Yochanan ve Rabbi Levi. Rabbi Yochanan Amar, Zeratz laharog etze, Vezeratz laharog etze. Ces deux tendances sont en elle. Ces deux tendances, ces deux potentialités sont en lutte et ces deux potentialités risquent de se détruire mutuellement. C'est ce que craindra Rebecca aussi à la fin de la paracha, en craignant de perdre ses deux enfants si Ésaü en venait à détruire Jacob. Ces deux potentiels seraient anéantis en même temps. Lorsqu'on parle de ces deux fils, je pense toujours à ce livre que j'aime beaucoup de Bruno Bettelheim, qu'on appelle en français « Psychanalyse des contes de fées », mais qu'on appelle en anglais « The Use of Enchantment », l'usage des enchantements. L'usage des histoires, à quoi servent, que nous apprennent les différentes histoires qui ont traversé les époques. Et il évoque en particulier le thème des deux frères, avec pour motif central les frères jumeaux. Le thème des deux frères constitue le sujet principal du plus ancien des contes qui a été découvert dans un papyrus égyptien de 1250 avant Jésus-Christ. Puis, pendant plus de 3000 ans, il a souvent changé de forme. Un chercheur a pu dénombrer 770 versions différentes, mais il est probable qu'il y en ait eu davantage. La question qui agite Rebecca, ces deux potentialités qui existent ensemble font référence à quelque chose qui habite l'humanité depuis des millénaires. Et il continue. Bruno Bettelheim. Les histoires qui reposent sur le thème des deux frères ajoute à ce dialogue intérieur, entre le ça, le moi et le surmoi, une autre dichotomie, la tendance à l'indépendance et à l'affirmation de soi, et son contraire, la tendance à rester en toute sécurité, à la maison, attaché à ses parents. Quand je dis ces mots, je pense évidemment à Jacob et Ésaü, Jacob, Yoshev Ohalim, qui s'installe dans les tentes, et Ésaü, qui court les forêts. Mais je pense aussi à leurs parents. Je pense à Rebecca, qui a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, comme Abraham l'avait fait. Mais contrairement à Abraham, elle a tout quitté sans emmener sa femme et ses servantes. Elle a tout quitté pour rejoindre la destinée d'Abraham et de sa famille. Et elle est une femme qui prend des décisions et qui sort à l'extérieur. Et je pense en parallèle à Isaac, qu'elle a épousé, et qui, de façon très intéressante, représente la tendance inverse, puisque Isaac est un homme qui a suivi son père, qui l'a suivi au point d'être prêt à l'accompagner jusqu'à se sacrifier et se laisser lui-même tuer. Bien sûr, ça ne s'est pas produit. Bien sûr, on émet des doutes sur la réalité de cette demande divine et sur sa signification profonde. Néanmoins, on lit dans la Torah que Isaac s'est retrouvé ligoté sur l'autel avec son père, qui avait peut-être l'intention, peut-être pas, mais qui avait le geste prêt à mettre fin à ses jours. On a ici une personne, Isaac, qui est dans l'obéissance, qui est dans la cohésion avec son père. Vayelchu shnehem yachdav, et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et une personne qui est dans la rupture avec ses parents. Mais de façon amusante. En étant en rupture avec ses parents, elle est dans la ligne d'Avraham, puisqu'Avraham lui-même était dans la rupture avec ses parents et a fait tout ce chemin. Et donc, la tendance à l'indépendance et à l'affirmation de soi, et son contraire, la tendance à rester en toute sécurité à la maison, attachée à ses parents. Depuis leurs versions les plus anciennes, ces histoires soulignent que ces deux tendances résident en chacun de nous et qu'il est impossible de survivre si l'une d'elles vient à manquer. Le désir de rester attaché au passé et celui de tendre vers un nouvel avenir. Et quand je lis ces mots, je pense à notre tradition qui est tellement ancrée dans l'avenir, tellement ancrée dans le passé, et tellement tournée vers l'avenir. Et je vais m'attarder juste sur ce lapsus, parce que quand c'est Yom Tov et qu'on dit Yaaleh ve'yavoh, on dit Zichron Mashiach ben David avdecha, le souvenir du Sauveur, fils de David, ton serviteur. Or, certainement dans notre tradition, ce Sauveur qui symbolise pour nous l'arrivée de la paix universelle, certainement pour nous, il n'est pas arrivé. Comment s'en souvenir ? C'est parce qu'on est capable de se souvenir du passé, parce qu'on tend vers un but et que notre passé et notre avenir sont liés. Je poursuis dans Bruno Bettelheim. On ne peut réussir son existence qu'en intégrant ces deux tendances contraires. Je poursuis. Sous cette forme, le conte est essentiellement destiné à nous mettre en garde. Il nous prévient que nous devons nous libérer de nos attaches œdipiennes et nous apprend que la meilleure façon d'y parvenir est de se ménager une existence indépendante, loin de la maison familiale. C'est ce qu'à la suite de notre histoire, juste pour la paracha à venir, Jacob va devoir réaliser. La rivalité fraternelle est, elle aussi, présentée dans ce conte comme un mobile puissant. La première réaction de l'aîné est de tuer son frère par jalousie. C'est la réaction que craint Rebecca et la raison pour laquelle elle enverra Jacob au loin, en tout cas la raison qu'elle allègue auprès de son fils. La meilleure partie de sa nature lutte contre ses bas instincts et finit par l'emporter. La réaction de l'aîné pour tuer le cadet va devoir être dépassée. D'après Bruno Bettelheim, on peut penser que Jacob et Ésaü sont tous les deux nécessaires à la poursuite de l'histoire. Et on comprend les craintes de Rebecca quand elle découvre soudainement que ces deux tendances existent en elle et qu'elle ignore quels équilibres vont se créer et comment les deux vont réussir à se grandir mutuellement et non pas à se mettre à mort mutuellement. Alors c'est ce que nous dit Bruno Bettelheim, mais c'est aussi de façon très intéressante ce que nous dit le Talmud. Vayomer Hashem là, l'Éternel lui dit, Shne goim bevitner, il y a deux peuples en ton sein. C'est ce qu'on vient de lire dans Bereshit. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rabbi Yehuda, Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Al tikri goim, et la geim. Ne lis pas des peuples, mais lis des personnes fières, des personnes imposantes, des personnes de valeur. Ze Antoninus ve Rabbi. Il s'agit d'Antonin et de Rabbi, dont la table était garnie des meilleurs mets imaginables et qui représentaient une fraternité et une discussion, Antonin étant un descendant de Ésaü et Rabbi étant un descendant de Yaakov. À la fin de l'histoire, au moment d'enterrer leur père, au moment des retrouvailles un peu plus loin dans la Torah, on peut penser... que Jacob et Ésaü se sont réconciliés, on l'espère. Mais ce que nous dit le Talmud, c'est qu'au fil de l'histoire, cette réconciliation non achevée va se poursuivre et qu'il faut absolument que ces deux tendances coexistent. On a vu que les choses semblent parfois très simples.
Vayehav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Bepiv, Verivka Ohevet et Yaakov.
Et Isaac aima Ésaü, car il y a du gibier dans sa bouche, car il le nourrissait de bonnes choses. Et Rivka aime Jacob. Une vision simpliste peut laisser penser qu'il y a de nouveau une guerre entre les parents qui va déchirer les enfants. Et il y a peut-être un petit peu de ça. Mais nous avons souligné le rapport très étroit qui lie Rivka à ses deux enfants, puisqu'elle aime Ésaü et elle aime Jacob, elle préfère Jacob, elle aime Jacob d'après le texte. Néanmoins, elle connaît les tendances d'Ésaü car elle aussi a connu sa famille et ses antécédents qu'elle a voulu quitter. Rebecca est un personnage complexe qui a vécu dans plusieurs mondes, qui connaît le monde de son frère, le monde de Lavan. qui connaît un monde extérieur parfois très difficile, violent et roublard. Et elle est une personne qui a choisi Isaac. Isaac, de son côté, est resté toujours à l'intérieur et il aime Ésaü. Il aime cette capacité vis-à-vis de l'extérieur à se propulser, à communiquer avec le monde. Est-ce que Rebecca se pose des questions existentielles juste parce qu'elle souffre? Est-ce que Isaac préfère Ésaü juste parce qu'il le nourrit? Ce serait vraiment réduire la capacité et la profondeur de nos patriarches et de nos matriarches. Il y a une raison complexe, un choix éthique, une décision vis-à-vis de l'avenir à prendre. Est-ce qu'on veut être un peuple qui s'assied dans les tentes ou est-ce qu'on veut être un peuple qui conquiert l'extérieur et qui chasse? Et quel choix va être le meilleur pour nous et quel choix accomplit notre destinée? Et c'est une question très très profonde, puisque le destin du peuple juif n'a pas été et n'a pas de raison de devenir un destin ou un chemin facile. Et on peut donner à Isaac ce crédit. Lui qui a souffert et qui a craint pour sa vie, qui a vu sa mort en face sous le couteau de son père, on peut lui donner ce crédit d'avoir voulu protéger ses enfants, d'avoir voulu leur proposer quelque chose de bon à manger. Soyez Ésaü, régalez-vous tranquillement. Et ici, c'est Rebecca qui connaît les deux mondes et qui va modifier la donne. Isaac pense que Jacob ne saura pas se défendre. Rebecca prouve qu'avec son aide, il sera capable de conquérir lui-même la bénédiction. Sur l'image que nous avons vue au début, Isaac ne comprend rien et Rebecca est derrière et elle a tout manigancé. Néanmoins, quand on reprend le texte, on se met à douter que Isaac ait une vision aussi simple et aussi naïve de la réalité. Vayavo el aviv, vayomer avi. Vayomer hineni mi ata beni. Jacob alla trouver son père et lui dit, mon père. Et il lui répondit, je suis là, qui es-tu mon fils? Isaac, qui dans un instant va comparer la voix d'Ésaü à celle de Jacob, a déjà entendu son fils dire mon père. Peut-être l'a-t-il déjà reconnu. Vayomer Yaakov el Aviv. Anochi Esav Bechorecha. Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Et Isaac s'interroge. Vayomer Yitzhak el Beno. Maze miharta limtso beni. Comme tu as trouvé rapidement mon fils. C'est étrange. D'habitude, ça ne se passe pas aussi rapidement. Une chasse demande plus de temps. Enfin, on pourrait relire tout ce passage et se demander si Isaac est réellement dupe de ce qui s'est passé ou si Isaac a un problème de choix entre la difficulté de la vie qu'attend un Jacob, un homme des tentes qui va devoir se confronter difficilement au monde extérieur par l'intermédiaire de sa vie chez son oncle Laban, entre ce choix-là et le choix de la simplicité et du bonheur, qu'est celui de Ésaü. Alors on a vu que Rebecca est un personnage complexe, on voit que peut-être à ce moment, Isaac devient lui-même un personnage complexe. Et j'ai amené, pour illustrer cette perception, ce texte, magnifique texte d'Edmond Flegg, qui s'appelle « La vision d'Isaac », qui est tiré de son recueil de poèmes « Écoute Israël ». Et dans ce poème, Isaac se retrouve à la fin de ses jours. Et vous allez voir qu'il est dans le choix à nouveau entre le destin, un destin de calme et de bonheur simple, ou un destin de responsabilité et d'action. Isaac bénit Jacob, ses fils et leurs semences, puis se tourna vers le mur en silence, et faible sur sa couche, aveugle et sourd, ayant connu pour Dieu des maux très lourds, il attendit la mort, rassasié de jour. Or, l'ange d'Élohim vient, à l'heure dernière, toucher sa tempe et sa paupière, et rendu un instant à ses forces premières, son âme retrouve les sons et la lumière, et le mur s'entr'ouvrit, plein d'esprit et de cris, et le père mourant vit tous ceux de sa race dispersés et meurtris dans le temps et l'espace. Et voilà ce qu'Isaac entend. Il entend ses enfants au fil des générations lui parler. « Isaac, Isaac, pourquoi nous as-tu mis au monde ? Nous allons sans abri, nous n'avons point de part à la terre féconde, et sur le sol natal, nous sommes des proscrits. Le faible nous insulte, le poltron nous brave, l'enfant siffle contre nous, et nous avons pris des âmes d'esclaves à force d'user nos genoux. » Cette interrogation, qui est la même que celle de Rebecca, « Pourquoi nous as-tu mis au monde ? Si telle est la lutte entre mes fils, à quoi bon être enceinte ?» Et il continue, les enfants, nous, et nous levons au ciel nos mains épouvantées, sans qu'une main d'en haut vienne nous secourir. Et sans vivre les joies que d'autres ont chantées, nous tombons au sépulcre avant que de mourir. Et là, Isaac, qui a toujours été un bon élève, se tourne vers Dieu. Ainsi le présente Edmond Flegg et lui dit « Tu leur avais promis, Seigneur, après ma mort, un pays de palmiers où coule l'huile d'or. L'ont-ils déjà perdu? Le cherchent-ils encore? Comme ils ont dû pécher pour mériter leur sort. Lorsqu'au mont Moria, victime volontaire, sous l'angoisse pliée, j'offrais ma gorge au couteau de mon père. Par ton ange, Elohim, mon corps fut délié. Mais regarde, mes fils, à quoi bon ta clémence? S'il faut que mon supplice, après moi, recommence. » Il fallait choisir Ésaü. Et Dieu se tourne vers Isaac. Alors Dieu dit au moribond, « Isaac, si pour tes fils ta douleur le demande, je puis t'épargnant l'épreuve trop grande, choisir une autre chair pour y marquer mon nom, et tes enfants seront ce que les heureux sont. Ils posséderont un coin de la terre, et d'autres marcheront exilés au soleil. Ils se rassasiront au froment salutaire, et d'autres souffriront le jeûne sans sommeil. Ils ne seront point mangés par l'épée, d'autres nourriront la flamme et le fer. Ils auront l'âme claire au feu d'orgueil trempé, d'autres paraîtront vils à l'univers. Ils ne connaîtront rien des tristesses profondes qui les pouvaient rendre immortels, mais d'autres feront sonner au monde le cri de l'Éternel. » Ainsi tonnait dans l'étendue la parole du Dieu fort, mais montrant ses fils de sa main tendue, Isaac supplia dans sa mort. « Elohim, Elohim, ne change pas leur sort, qu'ils vivent s'il le faut condamnés au servage, qu'ils errent en sanglots par les lieux et les âges, mais qu'ils te louent, Dieu juste, et qu'ils voient ton visage. » Et Dieu ferma les yeux du père des souffrants. Et Jacob mit ses os dans sa tombe en pleurant. Cette mise en scène de la mort d'Isaac montre qu'Edmond Flegg a eu cette sensibilité de penser, que Isaac a rejoint Rebecca en choisissant Jacob, en choisissant un chemin plus difficile, en choisissant celui qui devrait plus tard se battre avec l'ange pour acquérir son nom, pour devenir Israël, mais qui a choisi d'être un créateur de son histoire et non pas seulement de la subir, et de maîtriser ses craintes et ses difficultés pour proposer un autre modèle à l'humanité, ce qui n'est pas une chose facile, mais qui est une chose à laquelle nous ne renoncerions pour rien au monde. De la même façon, je rappellerai cette parole du Talmud qui cite les psaumes et qui dit « Rav Shalom Banaïr, grande est la paix de tes enfants, comme on souhaite que grande soit la paix des enfants d'Ésaü et des enfants de Jacob, du peuple juif et des autres peuples, Rav Shalom Banaïr Rivka, que grande soit la paix de tes enfants. Mais le Talmud, de nouveau, change en exprimant Altikri Banaïr et la Bonaïr, ne lis pas tes enfants mais tes constructeurs. Le choix de Rebecca et peut-être aussi le choix de Isaac, ce choix d'une destinée peut-être difficile, mais où la liberté existe et où la quête de la vérité dépasse tout, consiste à dire « il ne s'agit pas d'être seulement des enfants. Nous ne sommes pas que les enfants de notre tradition, nous sommes également ses constructeurs. » Toldot, les engendrements, l'histoire, les naissances, ce que nous recevons, ce que nous transmettons, ce que nous prenons du passé pour le donner à l'avenir, avec toutes ces possibilités qui s'ouvrent, toutes ces difficultés aussi, et toute cette tradition qui nous entoure et qui nous nourrit de la même façon que Rebecca, j'espère, a fait goûter de son excellent ragoût à Jacob avant qu'il parte en voyage avec ses bons plats de Shabbat, ses belles fêtes et ses chants et ses rassemblements à la synagogue pour qu'on trouve en nous la force d'être non seulement actif et courageux, mais d'être aussi heureux et bien, et comme des poissons dans l'eau dans notre tradition.